On imagine parfois le vent soufflé de grains de sable, un panoramique insatiable coulissant d'envers en endroit, une aspérité longitudinale, un pont Lévesque miroitant, un arc-en-ciel phénoménal piétinant le soleil couchant.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, la reconquête de l'eau. Gérard Borvon, vous êtes présidente de l'association SOS, vous êtes breton, visiblement oui. C'est important pour vous. Et vous dites, vous l'écriviez même il y a 2 ans dans le livre SOS L'eau en danger que vous avez publié aux éditions Goliath, qu'en Bretagne il y a une tradition culturelle très longue autour de l'eau, très longue et très riche.
Oui, c'est une tradition ancienne hein, qui nous vient sans doute des Celtes. L'eau était un élément très important pour les Celtes et on peut imaginer que la plupart des sources, des fontaines, des rivières d'ailleurs, y compris dans la France entière, le langage celtique il s'est maintenu autour des rivières et des sources qui ont gardé les noms celtes. Alors cet héritage celte, qui est déjà très ancien, il a été ensuite repris par l'Église catholique quand les moines irlandais sont venus évangéliser la Bretagne.
Repris et christianisé,
ça s'est traduit par des chapelles, on peut dire carrément, au-dessus de chaque fontaine. Chaque fontaine était dédiée à un saint. En général, elle n'avait d'ailleurs pas perdu les vertus anciennes, les vertus magiques hein, qui avaient été les vertus qui leur avaient été données par les druides. Alors c'était la plupart du temps des fontaines qui étaient des fontaines guérisseuses. On y allait pour faire marcher les enfants. On y allait pour les maladies de Dieu, pour les maladies de ventre. Chaque fontaine, chaque saint avait sa spécificité. Donc, très très ancienne tradition bretonne de l'eau.
Très ancienne, mais qui a perduré jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
Ah oui, oui. Et puis on peut dire sans doute qu'elle perdure toujours. Hein. On voit quelques fontaines isolées. Quand on se promène, tout d'un coup, tiens, on est étonné de voir sur la margelle des petites croix qui ont été faites par des gens au passage, sans doute. Alors, on ne sait plus très bien quel rite est mené autour de ces fontaines, parce que l'Église catholique ne s'y intéresse plus beaucoup. Mais sans doute, il y a des vieilles traditions qui se maintiennent dans les familles. Je ne dirais pas qu'on y croit vraiment. Hein. Je pense qu'on y va pour le symbole. Parfois, quand on a un problème, pour s'apaiser, finalement, c'est aussi bien que de lire l'horoscope. Donc, on retrouve là une vieille coutume. Et puis, on accorde tellement, tellement foi aux vieilles fontaines protégées qu'on imagine que si on a une fontaine qui est protégée par un saint connu, eh bien, elle est protégée des nitrates, des pesticides, et on voit des gens qui continuent à les prendre à la fontaine, de l'eau, hein, bien souvent bien plus polluée que celle qu'ils peuvent avoir à leur robinet.
Donc, malheureusement, cette protection n'est pas très efficace.
Non, je cite la fontaine de Sainte-Anne-la-Palue, qui est un des grands sites de pèlerinage et de parton breton. Et la tradition, comme dans tous ces lieux, c'est de revenir du pèlerinage avec un flacon d'eau. Hein. Et maintenant, au-dessus de la fontaine en question, il y a un beau panneau qui dit « Attention, eau non potable ». Bon, ça fait drôle.
Oui. Alors, ça fait drôle et ça ne fait pas très drôle, puisque cette région, avec cette riche tradition autour de l'eau, est aujourd'hui stigmatisée, montrée du doigt, comme celle où les problèmes d'eau sont les plus terribles.
Oui, c'est vrai, et c'est justifié. C'est sans doute la région où l'eau a le plus fort taux de nitrate. Quant aux pesticides, n'en parlons pas. Il doit y avoir à peu près 50% des points de captage qui dépassent à un moment donné dans l'année les 50 mg, la norme fatidique qui est la norme française, alors que le nombre guide européen est de 25 mg par litre. Bon, 50% qui dépassent cette norme, et puis il y a bien 25% qui sont largement au-dessus. Et bientôt, on craint que dans les années qui viennent, il y ait 75% des points de captage qui soient hors des normes. Alors, en ce qui concerne les pesticides, alors c'est parfois assez effarant. Vous avez des taux de pesticides qui sont relevés dans l'eau, qui sont cette fois non pas 10% au-dessus de la norme, mais 10 fois, 100 fois, voire 300 fois la norme, certaines occasions.
Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de voir avec vous le parcours du militant, c'est-à-dire vous, militant, tout ce qu'il a fallu que vous fassiez et tout ce qu'il faut encore que vous fassiez, puisque vous vous battez pour avoir une eau de meilleure qualité et, nous y reviendrons certainement, également moins coûteuse. Mais avant cela, je vous propose tout de même de rappeler quels sont les risques connus aujourd'hui des nitrates et des pesticides. Parce qu'on a tendance à citer toujours ces normes admissibles, admises, etc. Mais somme toute, les nitrates.
Les normes pour les nitrates ont été fixées d'abord à cause des problèmes qui pouvaient survenir chez les nourrissons. Maladie du sang chez les nourrissons en dessous de 6 mois qui pouvait provoquer une métamorphose de l'hémoglobine qui se transformait et qui n'était plus capable de fixer l'oxygène. Alors, la maladie en question se traduisait par un sang qui devenait bleu, des enfants qui suffoquaient, et il fallait réagir de toute urgence. On a donc fixé des normes de façon à limiter ou à éviter ces cas de maladie. Et c'est ces normes qui sont demeurées dans la législation. C'est vrai qu'actuellement, les cas de maladie chez les nourrissons sont assez rares parce que les familles ont pris l'habitude de ne plus utiliser l'eau du robinet pour les nourrissons et prendre de l'eau en bouteille. Ils peuvent arriver quand même dans des cas de familles justement très démunies et qui n'ont pas les moyens d'aller s'acheter de l'eau en bouteille.
Et puis de toute façon, ce n'est pas une solution.
Mais bon, on sait très bien que la solution qui a été trouvée par la plupart des gens, c'est celle-là. Hein. Abandonner l'eau du robinet et ne plus acheter que de l'eau en bouteille. Et d'ailleurs, la Bretagne, sur ce plan-là, bat des records. Les quantités d'eau en bouteille qui sont achetées chez nous, c'est quelque chose de faramineux. Alors là, vous avez, en parlant de la maladie du nourrisson, vous avez les risques à court terme. Mais les risques à plus long terme ont été mal étudiés. Les nitrates dans l'alimentation peuvent donner des composés qu'on appelle des composés nitrosés qui sont soupçonnés être fortement cancérigènes. Alors ils le sont, et ça c'est avéré pour les animaux, en particulier pour les mammifères qui sont proches de l'homme. Alors sur l'homme, c'est toujours la même question, les études sont plus difficiles à mener, comme les cancers de toute façon sont dus en général à plusieurs facteurs. Les preuves avérées ne sont pas encore fournies, mais de nombreux médecins soupçonnent les nitrates de pouvoir être l'origine de cancers assez forts. En particulier dans la région brestoise, il y a toute une équipe de médecins qui se posent la question pourquoi est-ce que les Finistériens sont plus sujets que la moyenne des Français au cancer de l'estomac. C'est une population qui, par comparaison, trouve l'équivalent au Japon. Et il y a régulièrement des congrès de médecins dans notre région qui s'interrogent sur la corrélation possible entre le taux de nitrate chez nous et justement la fréquence des cancers de l'œsophage et de l'estomac. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin, certainement pas, pour la population humaine, disons. Mais disons que le problème, évidemment, ne se limite pas aux hommes. L'homme n'est pas seul sur la planète. Et alors, ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est l'effet des nitrates sur l'ensemble de l'environnement chez nous. On a vu progressivement s'installer sur les plages.
Ce sont les algues vertes ?
Eh oui. Ouais. Et ces algues vertes qui sont en fait des algues assez banales, ce sont des ulves qui à la limite même pourraient et servent comme algues alimentaires. Mais leur problème, c'est que quand elles s'amoncellent, elles pourrissent. Et on a une odeur de sulfure d'hydrogène, d'œuf pourri absolument épouvantable. Et puis, ce n'est pas simplement l'odeur, c'est un gaz, le sulfure d'hydrogène, qui est très dangereux pour la santé. Si bien que vous avez des longueurs et des longueurs de plage chez nous maintenant qui sont impraticables. Où le tourisme est en train de s'effondrer, où les gens, effectivement, ne peuvent plus venir l'été. C'est un des effets, alors sur l'environnement, mais directement sur l'homme aussi, sur l'économie humaine et puis sur la santé humaine, sur ces régions-là, de la prolifération des nitrates.
Et on n'a pas encore parlé des pesticides ?
Eh oui, il faudrait en plus parler des pesticides. Alors les pesticides, c'est moins facile à repérer. Vous savez, pour les nitrates, une analyse de nitrates dans l'eau, c'est quelque chose qui se fait rapidement et coûte pas très cher. Une analyse de pesticides pour mesurer le taux de pesticides d'un seul pesticide. Alors, j'ai parlé en francs, je n'ai pas encore les euros dans la tête.
Allez-y.
Mais c'est autour de 2000 francs. Alors, analyser un seul pesticide, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut au moins analyser les trois pesticides les plus utilisés sur un secteur. On arrive tout de suite à 6000 francs pour trois pesticides. Et quand on a des cocktails, quelquefois des pesticides dans une eau qui vont jusqu'à 30 pesticides, vous comprenez bien qu'il faut des moyens vraiment très très forts et puis il faut avoir les moyens financiers pour faire cette analyse. Alors les effets soupçonnés des pesticides, bien, ce sont aussi des effets cancérigènes. Certains de ces pesticides d'ailleurs sont violemment cancérigènes. Alors, vous savez, les pesticides, il y en a de trois types. Hein. Il y a donc les herbicides pour tuer les herbes, les insecticides, puis les fongicides pour tuer les champignons. Alors effectivement, parmi ceux qui risquent d'être, et encore les autres le sont aussi, peut-être les plus violents pour l'homme, ce sont les pesticides utilisés contre les insectes, les insecticides donc qui agissent sur, ma foi, le métabolisme des insectes et qui d'une certaine façon peuvent agir aussi sur le métabolisme de l'homme. Donc les effets cancérigènes fortement supposés. Alors quand un pesticide, on se rend compte vraiment qu'il est inquiétant, on le supprime, comme on a fait récemment de l'atrazine, et puis on le remplace par un autre. Et pendant tout un temps, eh bien, cet autre pesticide, on a du mal à le détecter, les appareils n'existent pas, le coût est de plus en plus élevé parce qu'ils sont à des doses de plus en plus infimes, mais parce qu'ils sont de plus en plus efficaces. Et puis quand on se rend compte que celui-là aussi est dangereux, on va en chercher un autre. Et puis la course n'arrête pas.
Sachant que ceux qu'on a éliminés ne se sont pas, eux, éliminés.
Ah non, on les retrouve dans les nappes phréatiques et surtout on retrouve leurs produits de dégradation. Parce que quand on fait la mesure du pesticide, généralement on ne va pas mesurer leurs produits de dégradation. Or, on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, ces produits de dégradation qui restent très longtemps dans l'environnement sont parfois plus dangereux que le pesticide lui-même. Même. Si bien qu'on a de fortes inquiétudes en ce qui concerne l'utilisation des pesticides. Et vous savez que la France est le troisième utilisateur au monde de pesticides. C'est vraiment une maladie,
maladie française. Derrière les États-Unis et le Japon.
Et le Japon, voilà, exactement. Et la Bretagne, évidemment, est une des régions les plus utilisatrices de pesticides, en particulier avec la présence massive du maïs chez nous qui nécessite beaucoup de traitements aux pesticides.
Alors Gérard Borvon,
oui.
D'où vous viennent toutes ces connaissances que vous avez sur les effets, les risques? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'études faites à l'échelon national, international?
Hélas, pas tellement. Je vous ai parlé des nitrates récemment. La seule étude vraiment exhaustive que j'ai pu voir sur le sujet des nitrates, c'est un congrès de médecine qui avait eu lieu à Rennes, hein, il y a une dizaine d'années. Et où vraiment il y a eu là une recherche approfondie, mise en commun des résultats. Et depuis, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a récemment un congrès qui a été organisé à Metz par Jean-Marie Pelt, qui lui a apporté des éclairages nouveaux sur les pesticides, par exemple. Mais ces initiatives-là sont vraiment très, très, très limitées. Bien sûr, elles ne sont pas particulièrement encouragées, parce que si les résultats étaient ceux qu'on pense qu'ils doivent être, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une étude qui a été faite, on montre le danger potentiel et puis surtout le danger à venir de ces produits qui se concentrent, ça alarme suffisamment les gens pour que du coup des pressions soient faites sur les producteurs qui résistent ça de façon très forte, qui s'organisent.
Donc vous, militant associatif, comment est-ce que vous glanez, récoltez l'information?
Bon là, vous savez, elle existe quand même d'une certaine façon. Il y a des obligations de faire des mesures. Par exemple, l'ADAS est obligée de faire un certain nombre de mesures de nitrates, c'est dans les textes, et de pesticides. Alors, vous savez, au début, on a eu du mal à les avoir. Hein. Ces résultats doivent être affichés dans les mairies. Il y a, disons, une quinzaine d'années, quand on allait en mairie pour les chercher, on les trouvait sous trois piles de documents. Il fallait vraiment aller voir la secrétaire pour dire « mais dites, vous devriez afficher là, les résultats de nitrate ». Encore fallait-il que les militants sachent que ça devait être affiché. Hein, bon, nous, on le savait, on y allait. Alors on a pris l'habitude d'y aller. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un résultat qui nous alarmait, eh bien, on avertissait la presse. Si bien qu'on a vu, enfin dans notre région, nous en particulier, dans notre petit secteur là, du Nord Finistère, du coup les résultats être affichés de façon plus visible. Et puis au lieu que ce soit nous à chaque fois, parce que bon, les autorités se sont rendues compte que ça nous faisait de la publicité, hein, parce que c'était nous qui rendions public des chiffres officiels, l'habitude a quand même été prise finalement d'avoir directement des publications qui sont faites dans les journaux, si bien qu'actuellement vous lisez la presse et vous avez de façon régulière, peut-être toutes les semaines, le taux de nitrate qui a été relevé dans l'eau pendant la semaine. Alors vous avez les taux de nitrate, de pesticides là, vous ne les avez pas encore.
Bon, un premier combat payant.
Il a fallu le mener de façon très, très radicale, vous savez, parce que dans certains endroits, certaines petites communes, vous aviez une analyse par an, pas plus. Alors ça n'avait aucun sens, parce que les pics de nitrate ou de pesticides, ça dure parfois une journée, parfois quelques heures. Ouais. Si bien que notre association avait dû s'équiper, on avait acheté un premier appareil qui s'appelait un spectrophotomètre. Ça coûtait dans les 20 000 francs, mais autour de nous, en plaçant des parts, les militants autour de nous nous ont donné les moyens d'acheter cet appareil. Et on allait sur les marchés en disant aux gens, vous allez rapporter des échantillons de l'eau de chez vous. On faisait des analyses, on leur donnait le résultat, on les publiait, on les affichait sur le marché. On a depuis des appareils beaucoup plus commodes, des petits appareils électroniques qui nous permettent de continuer cette opération.
Alors, toujours acheter avec l'argent des militants ?
Ah oui, toujours, oui, bien sûr. La première mise est faite par des apports qui sont des parts, tout simplement, de militants, qui a une part d'investissement dans l'association. Puis après, bon, on fait quand même payer un peu l'analyse aux gens, si bien que pour tout ce qui est de la maintenance et puis des produits consommables, on s'en sort. Vous savez, ce n'est pas un problème. Le nombre de militants, de personnes intéressées sur notre secteur est assez important pour que, quand on lance un appel, on trouve toujours une réponse. Le tout, c'est de trouver les militants assez disponibles pour aller sur les marchés ensuite.
Ça, c'est peut-être le plus difficile. Bah, Gérard Borvan, il a fallu sans doute également acquérir un certain nombre de connaissances que l'ensemble des militants n'avaient pas au départ, puisqu'il y a tout ce que vous avez déjà énoncé sur les enquêtes, les études approfondies, mais il y a également toutes les connaissances sur le réseau hydrographique, sur les circuits de l'eau, tout simplement.
C'est vrai qu'on se rend compte que la façon dont est gérée l'eau en France, très peu de gens le connaissent, hein, la notion de bassin versant, les institutions qui ont la charge de la gestion de l'eau. Le citoyen moyen ne connaît pas tout ça. Et puis, on se demande même, d'ailleurs, si le fonctionnaire, l'homme politique qui est chargé de chapeauter tout ça, bien souvent on le connaît, parce qu'on se rend compte que ce sont les associations qui font parfois le travail d'information vis-à-vis des autorités, qui les tiennent au courant des dernières directives, ou du moins qu'ils leur rappellent qu'elles existent et qu'il faudrait peut-être les mettre en œuvre. Alors tout ça, c'est un travail, effectivement, de formation interne aux militants associatifs, qui font des stages, qui font des soirées d'information pour la population, sans arrêt, qui se forment eux-mêmes, qui se tiennent au courant des nouvelles directives, des nouvelles normes.
Alors ça, c'était le volet formation. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il ne suffit pas d'informer ensuite la population et les autorités pour voir la situation se redresser miraculeusement.
Non, hélas, ce serait trop facile. Non, depuis 25 ans qu'on est un certain nombre sur notre secteur à militer, au contraire, on a vu la dégradation régulière de la situation. En Bretagne, on peut dire...
Parallèlement, dites-vous, à l'envolée des factures d'ailleurs.
Ah oui, tout à fait. L'augmentation, par exemple, du taux de nitrate, c'est beaucoup plus difficile à dire pour les pesticides, parce que là, il y a des hauts, il y a des bas, on n'arrive pas vraiment à pouvoir établir une courbe. Mais le taux de nitrate a augmenté en moyenne de 2 mg par an dans les 20 dernières années, dans les captages et dans les rivières en Bretagne.
Ça là, fait c'est... 40 mg de plus en 20 ans.
Oui. Oui, il y a une vingtaine d'années. Alors, dans certaines rivières, on a trouvé... Dans certains captages, remarquez, les plus pollués, on ne sait plus, parce qu'ils ont été abandonnés au fur et à mesure. Si bien que là, on ne sait plus à quelle vitesse ça augmente, on les abandonne, donc on ne fait plus attention à leur protection. Et là, le taux de nitrate augmente rapidement. Si bien que dans les moyennes, par exemple, départementales qui sont affichées, en ce moment, on voit une stagnation. Hein. Mais cette stagnation, et d'ailleurs les autorités le signalent à chaque fois qu'elles font un rapport, n'est pas due au fait que la pollution stagne, mais est due au fait qu'on a justement pour l'alimentation des populations, parce que c'est surtout ça qui est mesuré, c'est l'eau qu'on donne à la population. On a procédé à des fermetures de captage, On a procédé à des interconnexions, c'est-à-dire que les zones qui étaient les moins polluées, eh bien, on les a raccordées sur les zones les plus polluées. Et puis, on a commencé à installer des usines de dénitratation. Alors là, ça devient la norme. La norme, l'eau est trop polluée, eh bien, on dénitrate au lieu de récupérer la qualité à la source.
Bien sûr, Ce que dites-vous pose un problème également, puisque les nitrates sont une partie du problème, mais pas le tout. Et le fait de simplement retirer les nitrates de l'eau n'en fait pas une eau pure.
Évidemment. On traite aussi les pesticides, mais encore faut-il les repérer. Et alors là, ça coûte beaucoup plus cher. On les traite dans les usines au charbon actif, mais à condition justement qu'on soit raccordé sur une usine.
Mais alors, vous êtes parti sur la situation qui empire. Moi, je pensais, en fait, vous suggérer d'aller du côté de la suite de votre parcours à vous, et non pas celui de l'eau, dont on sait bien, malheureusement, qu'elle ne va pas mieux. Je pensais que vous alliez bondir sur l'occasion pour me parler de tous vos démêlés juridiques. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des lois, il y a des textes qui devraient permettre aux autorités administratives, si vraiment elles le souhaitaient, de faire respecter les lois et de réussir à rentrer dans le créneau afin que la pollution ne se développe pas. Or, en réalité, si on a une pollution si forte, c'est que les exploitations agricoles en particulier, et en particulier les exploitations porcines, eh bien, ont développé une fraude tous azimuts. C'est-à-dire qu'une exploitation, pour pouvoir fonctionner, devrait avoir un cahier des charges très strict. Il y a eu une enquête publique avant de la laisser démarrer. C'est passé au comité départemental d'hygiène. Ça a été visé par le préfet. Et donc, une exploitation porcine ne devrait pas polluer. Dans la réalité, rien n'est respecté, ni les effectifs, ni les plans d'épandage, ni les périodes d'épandage. On voit sous la pluie, l'hiver, des tonnes alisiers qui circulent. Parce que comme les fosses alisiers étaient ouvertes, elles se remplissent de pluie. Et puis, quand elles sont pleines, eh bien, elles débordent. Et du coup, faut aller mettre le trop-plein sur les champs. Enfin, c'est n'importe quoi. Si bien qu'une des actions qui a été menée par les associations, et là-dessus, l'association la plus efficace dans ce domaine, c'est l'association Eau et Rivière, qui est un peu le...
De Bretagne,
oui. Oui, Eau et Rivière de Bretagne, qui est un peu l'association phare en Bretagne, ça a été de faire des procès. Donc, d'aller en procès, de porter plainte contre les exploitants. Mais enfin, ces procès, s'ils ont remué l'opinion, s'ils ont aussi mis les autorités au pied du mur, elles ne changeaient pas grand-chose parce que les amendes qui étaient données aux personnes qui étaient en infraction, elles étaient si faibles par rapport aux bénéfices qu'ils faisaient que, ma foi, ça ne changeait rien du tout. Alors, je vous dis, on pouvait voir des amendes qui semblaient fortes, des amendes qui étaient autour de 10 000 francs pour un exploitant qui était en infraction. Mais ça amusait les militants, même on a vu des amendes de 100 000 francs même. Mais ça amusait les militants, sachant que la personne qui était en infraction, son infraction avait pu lui rapporter en quelques années jusqu'à 1 million de francs. Parce que dans les périodes où le cours du porc est très très élevé, les gains sont faramineux, sont de nature spéculative. Et puis après, ça s'effondre. Les grosses exploitations qui ont fait des gains, bien, c'est pas un problème pour elles. Et puis les petits exploitants disparaissent. Et donc, ça a été une période très active de procès, donc des associations de protection de l'environnement contre les pollueurs. Et puis, il y a eu ensuite procès des associations de consommateurs, cette fois-ci, contre les distributeurs qui leur fournissaient de l'eau qui n'était pas dans les normes. Alors, il y a eu un procès assez célèbre autour de Guingamp, où les personnes qui avaient porté plainte, elles avaient non seulement porté plainte, mais elles avaient commencé à ne plus payer leurs factures, en estimant qu'elles étaient obligées d'acheter de l'eau en bouteille. Donc, il n'était pas normal qu'elles continuent à payer l'eau du robinet. Si bien que...
D'autant que sur cette facture, il faut le rappeler, on l'a déjà entendu la semaine dernière avec Marc Lémé, mais sur cette facture, un des postes importants concerne la dépollution de l'eau.
Ah justement. Oui, ah oui. Oui, dans les 10 dernières années, là, la redevance pollution a été triplée. Alors, les consommateurs ne s'en sont pas rendus compte, ça s'est fait progressivement. Et maintenant, c'est vrai que cette redevance pollution, dans certains cas, elle représente au minimum le quart de la facture. Et ça peut aller jusqu'au tiers de la facture. Donc, effectivement, ils payaient donc pour lutter contre la pollution, et non pas pour dépolluer, là, j'ai dit un gros mot.
Ils payaient donc... C'est moi qui vous ai induit en erreur.
Oui, ils... Ils payaient donc pour lutter contre la pollution, mais malgré tout, ils avaient une eau qui n'était inconsommable. Donc, ils ont commencé à ne plus payer les factures. Ils ont été attaqués pour ça. Et c'est eux qui ont contre-attaqué, finalement. Ils ont eu gain de cause. L'entreprise qui leur fournissait l'eau, qui était la Lyonnaise, eh bien, a dû leur rembourser une certaine somme qui correspondait aux périodes où l'eau n'était pas potable. Et du coup, la Lyonnaise s'est retournée contre l'État. Et l'État a été condamné. Justement pour non-respect
de la qualité
de l'eau dans l'environnement, parce qu'effectivement l'État a été rendu responsable, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il n'est pas temps que l'État ne joue pas son rôle, ne fait pas appliquer les règlements et regarde ailleurs quand il y a une pollution. Alors voilà, ce genre d'action se maintient. On a encore en ce moment des gens qui font une rétention sur leur facture. Un cas particulier, c'est celui de l'Anilis, où le maire refuse de protéger son captage. Il a décidé que le captage ne serait pas protégé alors qu'il en a l'obligation. Il a décidé de l'abandonner pour se raccorder justement sur une usine de dénitratation qui elle-même fonctionne de façon illégale parce qu'elle prend de l'eau dans la rivière qui est à un taux au-dessus de 50 mg. Et ça, c'est interdit. Elle ne fonctionne que par une dérogation. Eh bien, ce maire de l'Anilis a décidé d'abandonner son captage et de se brancher sur cette usine. Du coup, un certain nombre de personnes de sa commune ont décidé de faire une rétention aussi d'une partie de la facture d'eau. Le maire a réagi en leur coupant l'eau, en laissant juste un fin filet d'eau, mais il s'est rendu compte que quand même, il y avait c'est dans sa population.
C'est difficile d'assoiffer une
population. Voilà, c'est ça. Et puis parmi les gens à l'Anilis, il y avait quand même une réprobation assez forte, si bien qu'il a rétabli l'eau. Alors on en est là, avec un certain nombre de gens qui font une rétention et qui demandent à leur maire de protéger le captage. Et le maire qui ne l'a toujours pas fait. Alors c'est un cas, l'Anilis, mais il y en a d'autres. À côté, il y a Tréglounou, une petite commune aussi, on retrouve la même situation.
Il y en a d'autres d'ailleurs dans toute la France.
Voilà,
c'est vrai que c'est quelque chose
partout,
qui est en train de prendre forme.
Bien sûr, c'est un mouvement qu'on aimerait voir se développer. Alors en Bretagne, on l'a appelé mouvement Nénuphar, ce mouvement de rétention sur les factures, avec l'espoir que, comme un nénuphar là, se développe sur la surface d'un étang, le mouvement puisse s'étendre sur l'ensemble de la France.
Alors, autre secteur d'activité qui occupe pas mal d'associatifs également, c'est celui de la participation aux enquêtes publiques.
Oui.
Là aussi, il y a des choses amusantes.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'en filigrane, tout de même, vous avez très souvent évoqué l'agriculture intensive, que ce soit la culture du maïs ou, et surtout, les élevages porcins, qui sont donc, on le sait, des élevages surdimensionnés avec des nombres absolument ahurissants de truies et de porcs par élevage qui répandent des tonnes et des tonnes de lisier quotidiennement.
Ah oui, ça, il faut le signaler parce que ça me semble important. Vous savez, la Bretagne, c'est 6% de la surface agricole française. 6%. Et sur ces 6% de la surface agricole, on a 60% de la production porcine. Mais ça ne suffit pas. On a également 40% de la production d'œufs. Et puis, on a 20% de la production laitière. Alors, vous imaginez sur ce petit territoire, tous les excréments...
Le nombre de porcs, volailles et
Exactement.
Et de vaches que ça représente.
Voilà. Alors, on estime, oui, les porcs, il y en a produits tous les ans, il y en a 14 millions. Production de porcs, par exemple, c'est 14 millions. Bon, je ne vais pas vous donner les autres chiffres, mais pour avoir une idée de ce que ça représente, on évalue entre une fois et demie et deux fois la population française, l'équivalent excrément de ces animaux. C'est comme si il y avait...
Seulement ceux qui sont en Bretagne.
Voilà, rien que la Bretagne, c'est comme si on épandait les excréments de 80 millions, 100 millions d'habitants sans traitement directement sur la surface bretonne. Voilà. Bon, c'est dire les proportions. Moi, je cite souvent l'exemple de la vallée de l'Élorne où j'habite. Vous avez en gros 60 000 habitants qui traitent évidemment leur pollution, les stations d'épuration. Et même, on a des exigences plus fortes pour nous parce que justement, on est dans une région polluée. Eh bien, 60 000 habitants sur la même petite vallée, vous avez en équivalent animaux de l'ordre de 3 millions d'équivalents habitants. Et ces 3 millions d'équivalents habitants, eh bien... épandait jusqu'à présent. Maintenant, il commence à y avoir quelques usines de traitement, entre guillemets, on pourrait en parler, parce qu'il ne s'agit pas réellement d'un traitement des lisiers, mais ces 3 millions d'équivalents habitants épandent leurs excréments directement sur le sol.
D'où un sentiment assez partagé en Bretagne que peut-être il n'y a plus besoin de nouvelles installations, de nouveaux élevages porcins.
Non seulement,
qui sont soumis justement à enquête publique.
Voilà, exactement. Non seulement il ne faudrait pas de nouveaux élevages, mais il faudrait diminuer, comme ça a été fait en Hollande, où ils ont un programme de réduction de 25% du nombre d'animaux. Il faudrait qu'on en arrive là. Ce qui a été dramatique, vous savez, c'est d'avoir accepté les fraudes. D'avoir accepté, dans le cadre du PMPOA, Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, d'avoir accepté d'amnistier tous les agriculteurs à la date de 1994 en disant « bon, on passe l'éponge et on accepte de régulariser toutes ces fraudes ». Or, ces fraudes, elles étaient énormes. Pour certains exploitants, ils avaient doublé leur exploitation. C'est 50% d'animaux en trop qui sont dus aux fraudes. Si on était revenu dans les clous, eh bien, on n'aurait pas eu de problème en ce moment. Alors, vous me parlez justement des enquêtes publiques. Le problème des enquêtes publiques, pour les militants qui ont l'habitude d'y aller, et on continue à y aller, c'est qu'on arrive,
eh
oui, oui, un peu, mais ça nous donne l'occasion à chaque fois de voir les dossiers, de voir que ça ne change pas et d'avertir les gens, allez-y quand même, rien que pour voir et pour donner votre avis. On trouve des dossiers qui sont totalement stéréotypés, ce sont les mêmes, maintenant on sait très bien, on feuillette assez rapidement parce qu'on sait aller chercher l'endroit où justement on va trouver un zeste d'information, ou du moins l'absence d'information. Ce sont des dossiers sur lesquels vous voyez généralement pas indiqué l'état actuel de la pollution sur les secteurs. On ne vous dit pas dans la rivière quel est le taux de nitrate déjà quand on demande une extension. Vous trouvez des choses étranges parfois, comme sur un plan, qui est sur une carte, qui vous indique la situation du secteur. Vous avez une petite étiquette et puis quand on va regarder le plan original, à l'endroit où il y a étiquette, comme par hasard, il y a une source, par exemple. Vous voyez, le genre de choses qu'on retrouve sur les plans d'enquête publique.
Il y a également les zones qui sont destinées à l'épandage, mais qui apparaissent sur plusieurs, sur plusieurs plans différents.
Bien sûr,
c'est-à-dire qu'un même champ peut servir à l'épandage sur plusieurs élevages.
Bien sûr. Et on demande que tout ça soit informatisé. Ça serait facile maintenant, mais surtout pas. Mais la réalité, c'est qu'on découvrirait des choses qui sont assez énormes.
Bon, mais Gérard Borvon, il y a tout de même le commissaire de l'enquête publique que vous rencontrez.
Oui, c'est vrai, on le rencontre. Bon, la plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas véritablement formés aux problèmes d'environnement. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu un récent rapport de la Cour des comptes qui a pris le problème de l'eau en Bretagne comme thème. Et qui dit, je n'ai pas les mots exacts, mais en gros ça dit, les rapports de commissaires enquêteurs font rarement preuve d'une expertise. Et c'est vrai, on ne recrute pas les commissaires enquêteurs parmi les gens qui ont une compétence particulière dans l'environnement. Ce sont souvent d'anciens gendarmes qui sont en retraite. Ça peut être aussi des gens qui étaient à l'équipement, qui sont en retraite, mais très très peu. Pratiquement pas, de gens qui ont une compétence en ce qui concerne l'environnement.
Donc alors, vous leur offrez les vôtres de compétences.
Oui, on leur offre nos compétences, mais en général, ça ne sert strictement à rien, parce que vous savez, quand on va dans les enquêtes, alors on fait les choses sérieusement, on dépose un mémoire qui fait 4-5 pages, on a été dans le détail, et puis après, on va voir le rapport du commissaire enquêteur. Et puis, on trouve trois lignes. Trois lignes qui disent en général hors sujet. Pourquoi ? Parce que oui, on n'a pas traité le petit cas particulier uniquement de l'exploitation qui était envisagée, mais on a mis l'exploitation dans son environnement. On a montré qu'il y a déjà un excédent d'animaux tout autour, qu'il y a déjà un excédent de pollution. On a montré qu'il y a des textes qui incitent à aller vers moins d'animaux, moins de pollution. Mais le commissaire enquêteur ne veut pas voir ça. Il veut voir que le petit cas particulier qu'il est en train d'étudier, et ma foi, dans ce petit cas particulier, généralement, il ne trouve rien à dire, si bien que ça continue. On continue à avoir des extensions, même dans les zones qui sont fortement polluées. Et parfois, le commissaire enquêteur trouve quelquefois à dire, ça monte au comité départemental d'hygiène, qui lui, du coup, ne trouve rien à dire sur le rapport du commissaire. Il dit oui, le commissaire a dit ça, mais nous, responsables administratifs qui sommes, parce que pour l'essentiel, ce sont les responsables de l'agriculture, de l'équipement, qui constituent ce comité d'hygiène, eh bien, on ne trouve rien à dire et puis on donne un avis favorable. Et même si le comité d'hygiène donnait un avis défavorable, eh bien il arrive que le préfet, parce que c'est lui qui a le dernier mot, considère, parce que les pressions sont fortes, parce que, dit-il, il a en charge l'économie de la région, parce qu'il a peut-être peur aussi de voir des tonnalisiers déchargés dans sa cour, eh bien, il donne un avis favorable. Ça a été ce qu'on a pu vérifier pendant toutes ces dernières années. Alors maintenant, il y a un petit effort avec la pression justement des associations, avec le fait qu'il y a eu des manifestations de consommateurs, de protecteurs de l'environnement de plus en plus importantes, hein, des manifestations qui regroupent 5 000, 8 000, 10 000 personnes. Là, les préfets, ils sont un peu plus attentifs, surtout que l'économie elle-même est attaquée par cette pollution, l'économie sur le littoral, le tourisme, etc. On a un peu plus d'attention, mais c'est faible en regard des mesures qui seraient à prendre, quoi.
Gérard Borvon, la tentation est forte, en vous écoutant, de se dire « pauvre Breton, pauvre Bretagne », mais heureusement, ça se passe là-bas et pas ailleurs.
Oui, peut-être. C'est un peu vrai, remarquez, parce que c'est le Parlement qui devrait prendre les textes et les règlements qui imposeraient une meilleure prise en compte de la pollution en Bretagne. Et c'est vrai que la Bretagne est loin du Parlement et que nos élus ont parfois un discours chez nous, mais quand il s'agit d'aller agir à l'intérieur du Parlement pour faire évoluer les choses, le discours change. Mais d'une autre façon, je voudrais dire quand même que si on est bien informé maintenant de la situation en Bretagne, c'est aussi parce que vous aviez des associations de protection de l'environnement. Je vous ai déjà parlé d'Eau et Rivières de Bretagne. Bon, c'est vrai que SOS, on est une petite association, mais très active sur le terrain également.
Il y a le réseau Cohérence.
Il y a le réseau Cohérence qui essaie de fédérer les consommateurs.
Il y a le collectif Eau Pure.
Voilà. Oui, ce sont des réseaux qui sont actifs, qui marchent ensemble, et si bien qu'il y a une publicité assez forte qui a été faite autour des actions en Bretagne. Donc on sait qu'il y a pollution, qu'il y a action. Et c'est paradoxal d'ailleurs, c'est que l'image qui ressort de la Bretagne dans un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, c'est pas l'image d'une région polluée, mais c'est l'image d'une région qui se bat pour son environnement. À la limite, les actions des associations de protection de l'environnement donnent une bonne image de la Bretagne. Les gens sont attentifs à des gens qui se battent. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans beaucoup de régions de France, et on ne le dit pas, le niveau de la pollution est lui-même très très élevé. La pollution par les nitrates et pesticides est très élevée dans le bassin de la Seine, par exemple, très élevée dans la nappe alsacienne.
Le sud-ouest ?
Le sud-ouest avec l'irrigation. Bon, le nord de la France, on a des pollutions même qui sont dues à des polluants beaucoup plus actifs, des polluants chimiques dans la nappe phréatique, des polluants métalliques. Donc on a une situation de pollution généralisée pratiquement à l'ensemble de la France. Mais il est certain que la Bretagne, avec ses associations et avec sa volonté de se battre, est peut-être mieux mise en lumière. Puis il faut dire que les effets chez nous se voient rapidement. Notre eau, c'est une eau de surface. Hein, contrairement à la plupart des régions françaises qui ont des nappes phréatiques profondes, nous, toute notre réserve est en surface. Si bien que la pollution se voit immédiatement, elle se voit rapidement sur les côtes. Et c'est peut-être plus dangereux pour les autres régions qui ont une pollution plus discrète, mais dans les nappes phréatiques, récupérer la qualité, ce sera beaucoup plus dur.
Alors, et puis sachant que les pollutions qui atteignent d'abord les eaux de surface mettent 5 à 10 ans pour atteindre les nappes phréatiques.
Exactement.
Voilà, on sait que le problème est
devant. Oui. Et alors la dépollution sera évidemment beaucoup plus lente dans les nappes phréatiques profondes.
Jean-Luc Touly, vous êtes président de l'ACMÉ, l'Association pour le Contrat Mondial de l'Eau. Vous avez un mois de mars extrêmement chargé, dans une vie de toute façon relativement chargée, puisque les questions de l'eau, on a eu l'occasion de le voir la semaine dernière et puis en début d'émission, c'est une question qui laisse rarement du repos. Semaine chargée, mois chargé néanmoins, puisque aujourd'hui même vous êtes à Florence pour un forum alternatif mondial de l'eau, forum alternatif à celui qui se déroule à Kyoto au même moment.
Absolument. Ça date, disons, l'idée est partie d'une réflexion collective qui faisait suite au sommet de la Terre de Johannesburg, où on s'est rendu compte que ces grandes messes, ces grandes réunions qui regroupaient un certain nombre d'experts et regroupait surtout les multinationales qui étaient là plus pour acquérir des marchés et non pas pour réfléchir à quelles étaient les solutions alternatives à régler la question des 1,5 milliard de gens qui aujourd'hui sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable.
Vous étiez revenu d'ailleurs assez amer de Johannesburg puisque vous n'aviez même pas pu véritablement vous exprimer.
Non, tout était fait justement pour que les ONG, et en particulier celles qui dérangent, ne puissent pas avoir la parole là où il fallait. Et donc, un certain nombre de personnes faisant partie de ce mouvement qu'on a créé, disons, en janvier 2002, lors de Porto Alegre 2002, en janvier 2002, donc, qui s'appelle la Coalition mondiale contre la privatisation et la marchandisation de l'eau, et qui regroupait à l'époque 25 ONG des quatre continents principaux, aujourd'hui qui en regroupe à peu près 52.
Dans le monde.
Et on a même d'ailleurs eu dernièrement une organisation qui est au Japon, et qui souhaitait venir à Florence, bon, avec les difficultés aussi que
alors,
ces ONG...
Alors, ils pouvaient aller à Kyoto si facilement ?
Eh bien oui, mais justement, comme ils ont vu ce qu'on proposait, et de marquer une rupture un petit peu avec toutes ces grandes messes qui, en fin de compte, disent tous le partenariat public-privé est la seule solution pour régler la question de l'accès à l'eau, la question de la construction des infrastructures qui demandent tant d'investissements, et donc pallier l'insuffisance du secteur public. Évidemment, vu ce qui s'est passé à Johannesburg, on s'est dit il faut absolument à la fois marquer cette rupture, un peu comme Porto Alegre a été par rapport à Davos, mais également pour être une force de proposition concrète à cette pensée unique que le public ne pourrait pas apporter les moyens financiers aux pays en développement pour construire des infrastructures, alors que le secteur privé le serait. Et justement, dans un article du Monde il y a quelques jours, l'ex-patron du FMI qui a été chargé, donc
Michel Camdessus,
a été chargé de trouver justement l'argent nécessaire et surtout de sécuriser cet argent qui serait donc apporté en grande partie, soi-disant, par le secteur privé, pour qu'il y ait un retour à l'investissement, notamment par le paiement des factures. Et là encore, il y a une arnaque parce que vous savez bien que la population de ces pays ont un revenu en général inférieur à 2 $ par jour. Donc comment ils peuvent payer des factures dont les prix, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a privatisation, augmentent en moyenne entre 80 et 300% dans tous les cas de figure qu'on a eu jusqu'à maintenant, que ce soit Buenos Aires, Jakarta, Manille, etc. Donc tout ça est vraiment une illusion. Et donc la seule possibilité de s'exprimer, de se faire entendre et d'apporter, en dehors de critiquer, des solutions alternatives à la fois financières et techniques, c'était de créer un événement à l'extérieur, donc en l'occurrence à Florence, qui va regrouper donc des associations canadiennes, américaines, d'Amérique du Sud, d'Asie, donc de l'Inde, de la Malaisie par exemple, de l'Europe et de l'Afrique. Donc il y aura des gens du Ghana, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo qui seront présents pour justement apporter leurs solutions qui tournent quand même tous autour aussi du PPP, non pas partenariat public-privé, mais partenariat public-public, qui peut avoir plusieurs formes. Évidemment, on l'a choisi aussi un peu par exprès, évidemment, parce qu'on pense qu'à la fois ce sont les institutions internationales plus démocratisées, les États et les collectivités locales qui peuvent résoudre le problème des collectivités locales des pays en développement.
Mais alors justement, Jean-Luc Touly, parce que jusqu'à présent, vous avez seulement cité les ONG, les associations européennes et mondiales qui se rencontrent à Florence ce week-end. Il se trouve que du côté des collectivités territoriales, ça commence à bouger également.
Ça commence à bouger. D'ailleurs, depuis...
Il y a un relais de ce qu'on appelle la société civile.
Absolument. D'abord, sur le plan des ONG, également les ONG françaises, qui étaient jusqu'à maintenant relativement regroupées autour de l'association dont je suis le président, d'ATAC, de la coordination des associations de consommateurs d'eau, et puis de quelques associations mais de lutte de consommateurs d'eau, disons.
Comme SOS, dont Gérard Borvo est président.
Non, ça c'est tout dernièrement, justement. on s'est rapprochés mutuellement, parce que ce sont des associations de protection pour l'environnement, et qu'on ne retrouvait pas forcément dans notre coalition. Et évidemment, du fait qu'on travaille sur la même matière, on s'est rendu compte qu'évidemment, la pollution intéresse aussi le secteur privé, puisqu'ils sont spécialisés de la dépollution. Donc plus il y a de pollution, plus ils vont construire de stations. Et comme c'est eux qui les gèrent, vous comprenez, tout ça est lié. Et de l'autre côté, évidemment, l'écosystème, on ne peut pas simplement le citer sans vraiment qu'on soit associé. Et donc, ces associations, on s'est rejoints. Et là, les élus dans la dernière période, c'est-à-dire en gros depuis fin février. Et donc là, nous avons des élus de la ville de Paris, de la gauche plurielle, hein, pour être clair, la mairie de Châtellerault, la mairie de Briançon, la mairie de Toulouse. Donc, il y a et de plus en plus d'élus de petites collectivités et maintenant de collectivités, je dirais, moyennes, voire grandes, puisque donc la mairie de Paris sera représentée.
Puis Châtellerault est également...
Châtellerault, quand même 35 000 habitants et la communauté 200 000. On a aussi un maire très symbolique qui est le maire de Sainte-Anne en Martinique, donc Dom Tom. Sainte-Anne, c'est là où il y a le club Méditerranée. C'est un maire, disons, écolo et qui vient de signer avec le comité 21 l'agenda 21, donc pour une démocratie participative et notamment en matière d'eau du Nil, qui est contrôlée par une société qui a le monopole quasiment, qui s'appelle la Société Martiniquaise des Eaux et qui appartient à 50% à Vivendi, 50% à la Lyonnaise.
Jean-Luc Touly, j'imagine que vous arrivez avec déjà des idées de propositions à Florence.
Absolument, mais tout n'est pas joué. Et donc, sur les deux jours, il y a quatre séminaires. Hein, on ne peut pas en faire 350 comme à Kyoto. On va en cibler quatre. Et l'un de ces quatre sera consacré exclusivement aux élus. C'est-à-dire que les élus vont se réunir uniquement entre eux. Donc, il y a des parlementaires aussi, des sénateurs, des députés, des présidents de conseils généraux, qui vont réfléchir à non pas faire comme c'est la mode, une charte, une énième charte, ou une déclaration de bonnes intentions, ça c'est pas difficile, à Kyoto d'ailleurs ça, certainement ça va se faire. Là c'est un engagement politique qu'on souhaite qu'ils prennent, mais c'est eux qui vont le prendre tout seuls, en vue, dans le cadre de l'année internationale de l'eau, donc l'année 2003, de prendre une délibération de leur conseil municipal en vue d'un retour à la régie intercommunale, communale, syndicale, peu importe le terme, que les collectivités territoriales se réapproprient là où, alors que ce soit en France ou ailleurs, la gestion directe de l'eau et de l'assainissement.
Ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes.
Évidemment. C'est pour ça que c'est un forum aussi de réflexion et de propositions et que les pistes pour préparer un petit peu ces choses-là sont la faisabilité à la fois juridique, à la fois technique et à la fois sur le problème financier qui est quand même essentiel. Mais les deux premiers problèmes, juridiques et techniques, sont souvent les problèmes que les municipalités ont à régler en premier. Alors, rapidement, nous, on répond au problème technique en disant qui a le savoir-faire. On dit souvent le savoir-faire, c'est les multinationales. C'est non pas les multinationales, ce sont les salariés de ces multinationales, qui sont souvent d'anciens fonctionnaires territoriaux, qui travaillent pour le compte des communes par l'intermédiaire de ces entreprises. Et bien là, on propose qu'ils travaillent directement avec le statut de fonctionnaires, donc ils n'auront pas effectivement les inconvénients d'une chute de l'action de Vivendi ou de Suez. Donc au niveau de leur pouvoir d'achat, ils ne subiront aucun effet. Voilà, disons, une réponse sur le plan technique, sur le plan juridique. Aujourd'hui, ce qui est possible, c'est qu'à la fin des contrats, qui sont malheureusement encore trop longs, surtout à l'étranger, en France, la moyenne est à 12 ans, à l'étranger, c'est 30 ans, mais sur 12 ans, à l'issue du terme du contrat, aujourd'hui, les choses sont possibles, même si Vivendi a attaqué le maire de Châtellerault. Mais c'est un combat, à notre avis, d'arrière-garde. Depuis la Révolution française, l'autorité en matière d'eau appartient aux collectivités territoriales. Donc le maire peut faire ce qu'il veut. Donc à la fin des contrats du secteur privé, il peut se réapproprier sans problème cette chose-là.
Reste l'arme financière.
Oui, mais encore que je vous expliquais pourquoi ce n'est pas compliqué sur le plan juridique. C'est parce que vous pouvez me citer le cas de Grenoble, où Grenoble, ça a été rompu en milieu et il y a eu des pénalités terribles qui ont été payées par malheureusement les Grenoblois sur les impôts locaux. Là, la différence, c'est que comme il y a une loi Sapin, la loi Sapin était pour, en 1993, pour rendre ces marchés un peu plus transparents, etc. Avant la loi Sapin, les multinationales ont à 80% reconduit, et donc anticipé cette loi, et ont reconduit donc pour une durée d'une dizaine d'années les contrats précédents. Ce qui fait que l'échéance des 15 000 contrats sur les 22 000 qui existent en France, qui sont concédés au secteur privé, vont venir à échéance entre 2003 et 2006. Donc c'est possible aujourd'hui de reprendre ces contrats. Et donc sur le plan financier, ça c'est le gros problème. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de paramètres que les élus ne peuvent pas contrôler. Il y en a quatre principaux. Ce sont d'abord les compteurs. Chaque abonné sur sa facture paye des frais d'entretien des compteurs. Or, un compteur s'amortit au bout d'une période de 3 ans. Et la durée de vie d'un compteur, en moyenne, est de 14 ans. mais les compteurs, on ne les change que lorsqu'ils cassent, donc parfois largement après 14 ans. Donc il y a un amortissement qui donc provoque des bénéfices formidables. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les frais de personnel qui, un élu aujourd'hui ne sait pas exactement quels sont les salariés qui sont affectés à son contrat. Donc deuxième anomalie.
Ils sont en tout cas donc très difficiles à...
Très difficiles à
repérer.
À repérer, ça c'est clair. La troisième chose, c'est sur les factures que paye chaque abonné. Donc dans 80% des cas, il les paye donc à des sociétés privées. Ces sociétés privées encaissent la totalité de la facture. Mais 40% de cette facture doit revenir sous forme de TVA à l'État, sous forme de redevances de pollution aux agences de l'eau, qui ensuite financent des investissements pour les agriculteurs notamment. Et une partie qui revient aussi aux collectivités locales qui, elles, investissent dans des stations d'épuration, dans les infrastructures. Or, ces 40% ne sont reversés que 9 à 12 mois après. D'où des produits financiers que les élus, s'ils regardaient les rapports que chaque délégataire privé leur rend depuis la loi de 1995, ils s'apercevraient dans la colonne des produits que les produits financiers n'existent pas. Donc, l'idée à Florence de dire qu'il est possible de revenir en régie au niveau local, c'est aussi pour ces raisons, parce que la totalité de ces raisons, grosso modo, fait la différence de prix entre le public et le privé. C'est de l'ordre de 25 à 30 %. D'où l'intérêt que si ces collectivités reprenaient ces 25 ou 30 % de marge bénéficiaire, pour faire court, ça pourrait profiter d'abord aux infrastructures, donc aux usagers, mais également on pourrait en mettre de côté une partie pour financer justement des infrastructures des pays en développement. Voilà une piste financière. Les trois autres pistes, pour faire aussi rapide, mais là qui sont de l'ordre, pas exclusivement de la France, c'est d'abord faire respecter l'aide publique au développement qui avait été fixée à Rio en 1992 à 0,7% du produit intérieur brut de chaque pays de l'OCDE, donc des pays riches. Or, aujourd'hui, on est à 0,3 à peine et 0,1 pour les États-Unis. Donc, nous, on considère qu'il faut revenir dès l'année 2003 à la fin de l'année à 0,7. Ça, c'est la première. Deuxièmement, créer un impôt mondial de solidarité pour financer ces infrastructures. Troisièmement, taxer les eaux minérales, parce que les eaux minérales, c'est un pur scandale. Ça coûte 100 fois plus cher en quantité égale que l'eau du robinet, et qui sont aussi contrôlés par des multinationales, qui font des bénéfices sur de l'eau, si vous voulez, qui est tirée des sources ou de différents moyens plus ou moins naturels, et qui sont vendus en bouteille pour un peu suppléer, notamment dans les pays en développement, mais pas exclusivement, le manque d'eau. Et donc les gens payent cette eau-là en moyenne 100 fois plus cher que la même quantité de l'eau au robinet. Donc on trouve que...
Mais est-ce qu'en taxant, ils ne paieraient pas encore plus cher ?
C'est-à-dire qu'on veut prendre une partie de leurs bénéfices pour que ces bénéfices puissent servir justement à construire des infrastructures d'eau potable par des canalisations qui viendraient, pas forcément au robinet parce qu'il faut aussi respecter les usages dans certains pays, mais disons qui amèneraient de l'eau potable de bonne qualité à tout le monde. Donc ça, c'est notre proposition. Mais toute cette proposition tourne sur un volet de quelles sont les priorités aujourd'hui de vivre ensemble sur la planète. C'est l'eau, c'est l'air. Donc l'eau, aujourd'hui, on voit qu'un quart de la population n'a pas l'eau. Donc pourquoi on ne trouve pas cet argent alors qu'aujourd'hui, le budget des États-Unis sur le plan militaire, c'est 360 milliards de dollars. Et le patron, l'ex-patron du Fonds monétaire international qui est là pour chercher de l'argent pour justement pallier le public, il cherche 100 milliards. Bon. Et 360 milliards sur 1000 milliards de dollars de budget international de l'armement. Donc on voit bien que c'est bien un problème de priorité et de choix politique. On préfère faire la guerre, tuer les gens, alors que donner de l'eau aux gens, c'est la vie. Donc vraiment, on veut mettre l'accent sur cette chose-là qui est possible. Et on n'a absolument pas besoin du secteur privé, qui est là pour faire des bénéfices pour les actionnaires, et c'est logique, mais évidemment qu'ils ne vont pas faire œuvre philanthropique.
Jean-Luc Toulier est donc le président de l'ACMÉ, l'Association pour un contrat mondial de l'eau. Quant à Gérard Borvon, il a publié un livre, SOS, aux éditions Golias. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous à la bibliothèque Buffon le jeudi 3 avril à 18h pour une émission qui sera enregistrée en public. La bibliothèque Buffon, c'est 15 bis rue Buffon. Seulement, contrairement à ce qu'on vous disait la semaine dernière, ce ne sera pas sur les OGM, ce sera sur l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services. Thank you. Vous retrouverez tous ces renseignements, bien sûr, sur notre site internet franceculture.com. À la rubrique émissions, vous y retrouverez Terre à Terre et notre revue de presse hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre qui vous est proposé par Ruth Stegassi. Documentation, préparation de l'émission, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Prise de son et mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.